Nos chercheurs espèrent trouver aisément les principes fédérateurs d'un état de bonheur partagé dans l'histoire des deux villes jumelles, pourtant loin d'être identiques.
Pascal, j'ai arpenté les principales rues du côté sud du lac Osisko. Rouen semble s'être développé de façon anarchique.
Étrange. J'étais dans le vieux Noranda et tout m'est apparu bien structuré. Reprenons. Que peut bien se cacher derrière ce chaos?
Rouen, c'était deux clés minières, deux concessions minières.
Curé Pelletier.
Alors là, c'était Rouen City, ce côté ici, puis l'autre côté, c'était Rouenville. Mais ça s'est fondu en peu de temps, il appelait ça Rouen, le nom du canton.
Rouen, bien, il n'y avait pas grand-chose, il y a toutes des souches d'épinettes, puis des choix. Puis...
Omer Douville.
C'était terrible, c'était pas croyable comment ça faisait dire.
À Rouen, ça, c'est des Canadiens français.
Olivier Carrier.
Qui sont arrivés dans le coin ici, qui proviennent généralement du Témiscamingue, qui ont flairé le mouton d'or.
Les gens se sont ouverts des commerces pour profiter du fait que les mineurs faisaient de l'argent.
Plusieurs venaient, oui, il paraît qu'un village. Bon, ben ça va être le temps, on va se prendre un lot, là, puis ça va venir bon. Alors, un c'était pour être boulanger, l'autre c'était une salle de poule, l'autre c'était verrier, puis etc. Des commerces. 90%.
On avait entendu parler que c'était beau ici. Mon mari y avait pensé qu'on pourrait faire de bonnes affaires. Mon mari était venu, lui, en décembre, construire un café.
Madame Bellegarde.
On avait transporté nos brûlures. Lorsque M. Michaud entendait chanter une poule le matin, il disait « c'est le temps d'aller manger notre bacon ». Là, on a construit plus grand. Et puis, on a eu des chambres. J'avais jusqu'à 22 chambres.
Cette ville était n'importe quoi. Des cabanes, des rues bâties à la hâte, des magasins, des restaurants, en planches, en rondins, et puis hop, des poules et des vaches. Une ferme à côté d'une banque, et pas très loin, juxtant les bains publics, il y avait une fumerie d'opium, propriété libanaise.
Il y a un monsieur Coivu qui a bâti le premier steam bat ici.
Monsieur Garon.
Naturellement, c'était une nouveauté extraordinaire, puis c'était la rencontre, naturellement, de tous les hommes, les mineurs de Noranda, puis c'est là qu'on allait se laver pour vrai, hein?
Il n'y avait pas de goût, hein, la roue, hein?
Madame Carrière.
C'était un monsieur Vigier qui passait, là, vous savez, qui passait les toilettes, là, qui vidait les toilettes. Il y avait une ourine qui appelait, là, puis une grande boîte, puis il vidait toutes ces lignes-là, là-dedans.
Et pas très loin encore, car tout cela se tenait bien serré les uns contre les autres, contre l'envahissement de la forêt, il y avait un lac, le lac Osisko.
À Rouen, le développement se faisait de façon anarchique.
Gabriel Tremblay.
La population connaissait un début assez fulgurant, une montée du nombre.
Quand on parle de ville champignon, de boomtown, c'était vraiment ça, là.
Sébastien Tessier.
On entendait des maisons se faire bâtir jour et nuit. Là. Tu te couchais le soir, puis tu te levais, il y avait deux nouvelles maisons que tu n'avais pas vues le lendemain.
Les gens arrivent, ça s'installait à gauche puis à droite.
Et même à l'endroit où il y avait des monticules de roches, des endroits marécageux dans certains coins de la ville, ce qui représentait quand même certains problèmes lors de la construction.
Et la plupart abattaient les arbres qu'il y avait sur leur lot et puis bâtissaient la maison en habille.
Mon père va monter en 24 en canot, il avait bâti un chac sur le bord du lac, un chac de bois long, c'était tous des chacs de bois long qu'il y avait là sur le bord du lac. Jusqu'au curé Pelletier avec la soeur supérieure qui restait dans un chac de bois long sur le bord du lac.
Puis en fait, c'était pas des maisons, c'était des taudis en planches, des camps à bracadabra, pas de fondation. Il y en a qui avaient bâti sur des troncs d'arbres, des logs là, à terre, de sorte que si à un moment donné, ils avaient besoin de déménager leur camp parce qu'ils étaient bâtis dans la future rue, bien qu'ils auraient pu atteler des chevaux, tasser le camp, l'installer le long de la rue. Alors c'était vraiment le free-for-all.
Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace, une table et quatre chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, la base, le fond, point d'appui de ta maison, c'est une femme dedans.
Nous autres, à Rouen, ici, on avait beaucoup de chats. Mais lorsqu'on a construit nos chats, ici, la mine Noranda n'était pas encore prouvée. C'est lorsque la mine a été prouvée qu'on a commencé à construire des résidences qui avaient du bon sens.
Le premier arrivé, premier servi, puis il y avait même des bousculades parce que j'avais choisi ce terrain-là, puis c'était pas mon terrain. Alors, ça s'organisait un peu comme ça, puis avec un peu de bataille. De sorte qu'à un moment donné, le curé Pelletier arrive dans les années 25, il voit ça, ça pagaille. Fait que là, il voit qu'il faut arriver à mettre de l'ordre là-dedans. Il met sur pied une force policière. Ces deux, trois gars, là, de ces chums qui sont un peu costauds, alors quand il y a un peu de bataille, ben là, il va séparer les belligérants, un peu comme ça.
Au début, dans les premiers temps de la ville de Rouen, ce qui était particulier, c'est que les rues étaient en boue.
Il y a des rues, le tracé était fait, mais les souches étaient encore dans le milieu de la rue, là. C'était encore en terre glaise, là, en terre vont.
Les gens portaient des bottes jusqu'aux genoux parce qu'ils marchaient dans la boîte à longueur de journée.
Même les femmes avaient des bottes lacées jusqu'aux genoux. Là, je suis promené en talon haut, là, c'était pas à place, là.
En 1924, mon père avait bâti son magasin. C'était une mercerie pour hommes. Il y avait beaucoup de bottes. Parce que ça en prenait pour aller dans la boue ici.
À un moment donné, ils se sont tannés de marcher dans la boîte. Ben, ils ont commencé à faire des trottoirs un côté, au moins avoir un côté de la rue.
Le trottoir était en bois, mes enfants appelaient ça un trottoir de cow-boy. Et puis, il était à trois pieds plus haut que la rue.
Alors, les premières rues qui ont eu des trottoirs, c'est là où il y avait les magasins, les hôtels.
Le centre-ville occupait une place importante à cette époque-là. Tout se passait sur la rue principale puis sur la rue Perrault. C'était pratiquement jour et nuit. La rue était bondée de gens, là. Même certains jours, il y avait tellement de trafic que c'est les policiers qui faisaient le trafic parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de lumière au coin des rues. Tellement qu'il y avait de monde qui allait magasiner puis qui allait se promener sur la rue principale.
La population pouvait profiter de différents avantages à Rouen dont elle ne pouvait pas profiter à Noranda. Les règlements régissant l'établissement de commerce d'amusement étant plus laxes à Rouen, alors la population, naturellement, se dirigeait vers Rouen pour magasiner et pour profiter des loisirs mis à leur disposition. Les théâtres et les établissements hôteliers, tavernes, etc.
On a veillé à Rouen, naturellement. On a la messe à Rouen. Après notre veillée à Rouen, bien, on retournait à notre chaloupe. Puis avec les lampes de poche, là, on pouvait partir de Rouen puis aller atterrir au rivage à Noranda. C'est comme ça qu'on voyageait. Parce que dans ce temps-là, c'était du marécage. Où est l'hôpital aujourd'hui? Là, c'était impossible. On ne pouvait pas passer là. À moins avoir des bottes, naturellement.
Le Red Lake District de Rouen était multiculturel et bilingue, comme on dit au Canada. Et il s'y brassait des affaires pas toujours catholiques, entre les tavernes et les hôtels qui y champignonnaient plus que les couvents.
Le samedi soir, il y avait beaucoup de bruit en ville. Il y avait beaucoup de place. Il y avait la salle de M. Pépin sur le coin de la rivière et Perrault. Il y avait des danses, ça vendait de la bière. Et puis le dimanche matin, bien, tout était calme, puis on allait à la messe. Durant la semaine, il y avait la messe là, tous les matins, mais c'était sous la tente. Bon, puis le dimanche, bien, il y avait beaucoup plus de monde, alors on allait à la salle Pépin. Puis ça sentait encore la bière.
Alors donc, Rouen, au tout début, c'est des squatteuses. Ça arrête en 1926 où Rouen obtient le statut de village. Il y a 500 ou 600 habitants à ce moment-là. Alors ça permet d'élire un conseil municipal avec le premier maire, M. Fortin. Alors donc, c'est eux avec en tête l'abbé Pelletier, Albert Pelletier, qui prennent les grandes décisions.
M. Fortin a été maire de 1926-28, tout à fait. C'est lui qui a commencé à construire l'aqueduc ici. Lorsqu'on parlait d'aqueduc, c'était très intéressant parce qu'avant ça, c'était les puits que nous avions. En 1927, ici à Rouen, il y a eu une épidémie de fièvre typhoïde. Et tout le monde a été inoculé, toute la population. Ces puits-là ont été la cause des fièvres typhoïdes. Fait que là, on a dit, l'aqueduc, c'est la première chose à faire. Mais ici à Rouen, il n'y a pas de terre, c'est d'arrache tout partout ici. On a construit l'aqueduc, du sable, on n'avait pas. On a rejeté les roches sur les tuyaux. Et puis on s'est aperçu que durant l'hiver, tous ces tuyaux-là étaient brisés. Il a fallu recommencer la construction de l'aqueduc deux fois ici. Et puis, il a développé avec le Rouen les rues nouvelles.
Bon, le conseil municipal, c'est là qu'il décide où va être la première école, l'hôpital. Il décide de se bâtir un hôpital des Saints-Anges, sur le bord du lac Ossisco. Bon, il y a une espèce de petit monticule, donc on met l'hôtel de ville sur-dessus du monticule. Donc, c'était la coutume à l'époque. Puis on met l'église cathédrale de Saint-Michel sur le haut du monticule, juste aux côtés de l'hôtel de ville. Donc, le pouvoir religieux et le pouvoir civil sont situés un chaque côté de la rue. Pour faciliter les communications.
Il a tout fallu construire. Tout. C'était notre désavantage, notre avantage, d'être loin des grands centres, parce qu'il a tout fallu créer sur place ici. Tous les services, non pas seulement ce qui concerne la mine, mais ce qui concerne toute la population, en fait tout.
Mais au fur et à mesure que la ville de Rouen s'organise, ben, les squatters sont repoussés en dehors des limites de Rouen, de l'autre côté du lac Édouard. Eux autres, ils veulent pas payer de taxes, puis ils veulent pas payer d'impôts. Alors, à un moment donné, le clergé a fait venir les Oblats et leur confie de développer Rouen-Sud. Et ça devient de la paroisse Immaculée-Conception. Ils adoptent aussi un genre de structure municipale, mais qui, à un moment donné, va se fusionner avec Rouen. Et c'est dans Rouen-Sud, maintenant, qu'on a l'université, le cégep. Il y a même le quartier des professeurs, qui anciennement s'appelait Glenwood. Alors, ce territoire peuplé de squatters, aujourd'hui, est un territoire cossu et bien organisé.
Car il y avait de tout dans cette ville, du meilleur et du pire, joyeusement entremêlés. Chacun y trouvait son lot.
Carrier, Coutu, Caouette, Beauchemin, Codé, Cloutier, Leclerc, Fortin, Grand Maître, Bibeau, Rallye, Gaudreau, Charlebois, Provencher, Tardy, Gagné, Rouen.